posé et nous avait été demandé que nous puissions prier pour la foi. La foi, je retiens bien la foi. Et nous avions prié pour la foi. Et j'ai entendu une personne qui dit, Seigneur, nous voulons manifester la foi. Nous voulons croire en ce que, à toutes les prières qui sont adressées vers Dieu. Nous voulons croire, parce qu'on peut prier sans croire. On peut venir dans une église sans croire en Dieu. Ah oui, on n'a pas la foi. On peut venir par routine, peut-être pour retrouver certaines personnes, pour se faire du bien, mais on ne met pas sa foi, on ne croit pas. Donc nous avons prié pour cela, que notre église soit une église de foi, des hommes et des femmes qui manifestent la foi devant toutes les situations possibles. Je suis malade, je mets ma foi en Dieu. Même s'il y a le médecin, même si je peux avoir toute l'assurance est là, maladie et autres, mais je mets ma foi en Dieu, je me tourne vers ce Dieu-là et je prie, Seigneur, étends ta main sur moi. Même si je suis dans la détresse morale ou financière, peut-être qu'on peut m'aider, on peut m'accorder un crédit, mais je m'attends d'abord à ce Dieu qui pourvoit aux besoins. C'est cela la foi, c'est mettre sa confiance en Dieu, s'appuyer sur son Dieu. Pas sur les hommes, ne pas regarder aux hommes, même s'ils peuvent faire quelque chose pour nous. Mais je m'attends d'abord à Dieu. Et quand Dieu ouvre les écluses des cieux, après nos prières, je vous assure, il y a la joie. Nous sommes dans la joie. Nous vivons cela. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Et nous lirons le verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce soir, c'est avec crainte et humilité que nous nous approchons de toi. Et nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Sachant que c'est toi qui exauce nos prières, ce soir encore nous mettons notre foi, notre confiance en toi. Et Seigneur, dispose nos cœurs à ce que nous puissions recevoir cette parole. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, le verset 3, qui dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle ainsi à l'église de Rome, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure, je souligne ça, selon la mesure de foi que Dieu a donné, la mesure de foi que Dieu a donné à chacun. Ce soir, je parlerai de la mesure de foi. Il y a une mesure de foi. Et le mot mesure vient du mot grec mètre. Et le mètre, nous le connaissons tous, c'est l'unité de mesure de la longueur. C'est le fait de déterminer la valeur de certaines grandeurs, comme la longueur, la largeur, la hauteur, une surface quelconque. Mais nous pouvons aussi déterminer nous pouvons mesurer notre foi, nous pouvons déterminer le niveau de notre foi, nous pouvons la mesurer si c'était possible. Mais spirituellement, chacun de nous peut connaître son niveau de foi, et c'est bien de connaître la mesure de foi que tu as reçue. Nous devons connaître la mesure de foi que Dieu a mis en nous. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc, par mon esprit, je sais ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. De la même manière qu'il y a des niveaux d'onction que Dieu donne à ses enfants, mais il y a aussi une mesure de foi que Dieu donne à chacun de nous. Et je sais ce que j'ai reçu. Jésus connaissait l'onction qui était sur lui. Voilà pourquoi il pouvait dire « l'onction du Seigneur est sur moi ». Ce n'est pas la prétention, ce n'est pas l'audace. Il dit « l'onction du Seigneur est pour moi, il m'a oint ». Il savait. Je sais ce que Dieu m'a donné. Je connais la mesure de foi que Dieu m'a donnée. Et c'est pour cette raison que je peux prétendre prier pour certaines personnes. Je sais que j'ai la foi. Quand je vais prier pour la personne, elle sera guérie. Donc, j'ai cette foi-là. Je sais que quand je vais prier avec autorité, il y a les démons qui peuvent sortir du corps. Je peux prier, Dieu peut exaucer pour une situation quelconque. J'ai cette foi-là, voyez-vous. Donc chacun de nous devrait connaître la mesure de foi qu'il a reçue de la part du Seigneur. Alors je voudrais que nous puissions lire dans Hébreux chapitre au premier verset, c'est la définition de la foi, parce que nous parlons de la foi, nous voulons savoir exactement ce que c'est la foi. Qu'est-ce que la foi ? Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 11, vous m'excusez. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est la définition de la foi. C'est toujours Paul qui parle. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Première des choses, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ouais, on n'a pas encore reçu la chose, mais nous croyons que nous l'avons déjà reçue. Nous espérons, nous croyons, nous mettons notre confiance. Donc c'est une ferme assurance. Je suis sûr, je mets ma confiance que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu le fera. Donc c'est une ferme assurance, une ferme assurance. Et Paul dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, vous savez, quand on ne voit pas les choses que nous demandons, ouais, donc nous amenons à l'existence les choses du monde invisible vers le monde visible. Quand nous prions pour la guérison, quand la personne est guérie, mais c'est la démonstration de notre foi. Nous avons prié pour la guérison. Quand nous prions pour qu'une personne trouve du travail, c'est la démonstration de notre foi. Nous avons prié et Dieu a exaucé. Quand nous prions pour que une vie soit restaurée, c'est la démonstration de la foi. Quand nous prions pour que Dieu amène des âmes dans l'église, mais c'est la démonstration de la foi. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons besoin de démontrer notre foi. Les gens ont besoin de voir notre foi. Ils ne veulent pas seulement nous entendre parler, mais ils veulent voir. Ils veulent voir. Alors, cela ne se passe pas peut-être ici, mais chez moi, les gens veulent bien voir. Parce que nous sommes habitués aux choses visibles. Vous voyez, quand on va chez le marabout, hein, il prend un morceau de tissu, il emballe, il peut même, vous m'excusez, hein, il peut même mettre la salive dessus, il vous donne, pourtant c'est pas bien, mais nous mettons notre foi. Parce que nous avons vu, nous croyons. Et souvent, ce que fait le marabout se manifeste. Voyez-vous, le diable agit et les gens sont contents. Et quand ils viennent à l'église, ils veulent voir aussi des choses palpables. Voyez, il va chez le féticheur, on lui donne une infusion, la personne boit l'infusion, elle est guérie. Mais quand elle vient à l'église, elle dit, mais je veux voir quelque chose. Voyez, donc c'est notre responsabilité. Les gens ne viennent pas seulement pour nous regarder le dimanche, ils ne viennent pas seulement nous entendre, mais ils veulent aussi voir la main de Dieu. Ils veulent voir que les prières sont exaucées. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, il disait, je ne suis pas venu vers vous avec des paroles, les discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu vers vous avec une démonstration de puissance et de force. Et c'est ce que tout serviteur de Dieu devrait dire. Je suis venu avec une démonstration de puissance et de force. Je racontais ici l'histoire d'un ami qui était venu, qui m'avait influencé dans la prière. Vous voyez, après avoir prié, prêché la parole, et il dit à tout l'auditoire, bon, mais je passe maintenant la démonstration. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Effectivement, quand il a commencé à prier, mais je vous assure, vous voyez la gloire de Dieu dans la salle. Les gens sont bénis, sont touchés les personnes. Il y a ceux qui commençaient à pleurer, il y a ceux qui commençaient à louer le Seigneur, il y a ceux qui commençaient à se prosterner devant Dieu. Voyez-vous donc, ça c'est la démonstration. Les gens veulent voir, je veux le voir. Quand nous prions, les gens veulent voir les prières être exaucées. Alors au verset 7, il est dit ceci, toujours dans Hébreux 11, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » C'est vrai que moi j'ai pris l'exemple de Noé, mais il y a d'autres héros de la foi qui sont cités dans Hébreux 11. Il dit que qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voyez-vous, qu'on ne voyait pas. C'est ça la foi. Dieu a parlé à Noé, mais Noé a cru. Quand on reçoit la révélation de Dieu ou une prophétie, croyons des choses divines, il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Et saisi d'une crainte respectueuse, il a construit l'arche. Ça veut dire qu'il a mis sa foi. Dieu a parlé, il a mis sa foi maintenant. Imaginez-vous dans ce territoire où il n'y avait pas de fleuve, pas de lac, il commençait à construire l'arche. Et tous les passants se moquaient de lui, disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est ridicule, l'arche ici, un bateau, mais ça va servir à quoi? Et tout le monde riait. Les gens à Sodome buvaient, mangeaient, se moquaient de lui. Mais lui, il avait la foi à ce Dieu-là, ce Dieu qui parle. Notre Dieu se révèle à ses enfants, il se révèle à nous, il parle. Et quand il parle, nous mettons notre confiance. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il peut nous parler au travers de sa parole, quand nous la lisons. Il peut nous parler au travers d'un cantique, comme tout à l'heure. Il peut nous parler au travers d'une prière, quand une personne prie. Il peut nous parler aussi en songe, en vision. Il choisit tous les moyens possibles. Mais quand nous discernons que cela vient de Dieu, nous saisissons cela. Vous savez, ce qui vient de Dieu, on le sait, c'est sûr. On n'a pas peur, on sait que cela... Il y a des signes qui ne trompent pas. Et Noé a commencé à construire l'arche. Mais le jour est arrivé où Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, il a envoyé, Dieu, le jour est arrivé, plutôt Dieu allait envoyer, Dieu allait envoyer le déluge sur la terre. Et le déluge est arrivé. Voyez-vous, tout le monde allait maintenant vers Noé, frapper à la porte pour dire, Noé, ouvre. Noé dit non. Et il avait fermé sa porte. Et il n'y a que sa famille qui avait été sauvée. Donc c'est la foi qui lui a permis de construire l'arche. C'est la foi qui lui a permis de saisir cette bénédiction. Et la démonstration de la foi, c'est aussi amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ah oui, nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de 300 âmes ici, 300 personnes. Mais ça c'est nous, ça, on ne le voit pas. Mais nous devons amener cela à l'existence. Seigneur, nous voulons avoir ceci, mais nous prions pour que la chose soit maintenant visible, que nous puissions la voir. Donc, la démonstration de la foi, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et au verset 2 de Hébreux 11, Paul dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on a la foi pour l'avoir possédé. Toutes les personnes qui sont citées dans Hébreux 11 ont manifesté la foi. Personne d'entre nous ne peut dire qu'elle n'a pas la foi. Nous avons la foi. La foi dont il est question ici, c'est la foi qui sauve, hein, la foi qui est liée au salut, que chacun devrait posséder. Donc ici, ce n'est pas la foi charisme avec grand F, mais c'est la foi qui sauve. Nous avons tous la foi. Et pour l'avoir possédée, nous devons posséder la foi, nous devons l'avoir. Qu'est-ce que nous constatons dans nos églises actuellement? Nous prions, mais on n'a pas la foi. Oh oui, bon écoute, nous allons prier pour que Dieu touche cette famille qui est au bord du divorce. Bon, les gens élèvent la voix, prient, mais est-ce que nous croyons? Est-ce que dans mon esprit, je saisis cela et je dis, Seigneur, que cela s'accomplisse? Voyez-vous, il doit y avoir une relation entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Et notre esprit est connecté à tout cela. Je suis là de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, je prie. Ce foyer-là va être restauré, Seigneur. Seigneur, je crois. Je sais que le Seigneur m'exauce toujours. Je sais. Et nous devons croire qu'en élevant la voix, ce Dieu-là, il va nous exaucer. Alors, en lisant la Bible, en écoutant Jésus parler, on se rend compte qu'il y a des niveaux de foi. C'est là où je vais arriver sur mon intervention ce soir, sur la mesure de la foi. Il y a des niveaux de foi. Alors, le premier niveau que j'ai trouvé, c'est dans Matthieu chapitre 17, si vous permettez qu'on le lise. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Ça, c'est le premier niveau. Nous parlons ce soir de la mesure de foi, donc il y a des niveaux de foi. Et Jésus nous montre ici un premier niveau. Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à pied devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« Mais c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, donc ici, en écoutant Jésus parler, on se rend compte qu'il y a, il y a un niveau de foi zéro. Donc, qu'est-ce qu'il reproche à ses disciples qui n'avaient pas pu chasser ce démon qui était dans le corps de l'enfant? Il leur reproche le manque de foi, l'absence de foi. Voilà le premier niveau. Alors, on a lu dans Hébreux 11, dans tout Hébreux 11, vous lirez, il est question de héros de la foi. Alors, moi je dis quelquefois dans nos églises, au lieu d'avoir des héros, nous avons des zéros dans la foi. Dans nos églises maintenant, quand on vous dit, mais nous, on a des zéros. Donc, c'est ce premier niveau. Mais Jésus s'adressait à ses disciples, frères et sœurs. Il parlait aux disciples, pas aux païens, ceux qui étaient avec lui, ceux qui avaient été formés, ceux qui le suivaient. Voilà qu'un homme, un jour, amène son enfant qui était lunatique. Cet enfant tombait souvent dans le feu, dans l'eau. Ils l'ont amené pour que les disciples le guérissent. Jésus n'était pas là. Mais ils ont prié. Rien ne s'est passé. Et quand Jésus arrive, il parle sévèrement au démon qui quitte le corps. Mais les disciples disent, mais pourquoi on n'a pas pu? Mais il dit, c'est à vous, à cause de votre incrédulité. Ouais, l'obstacle à la foi ici, c'est l'incrédulité. Alors, une personne incrédule, c'est celui qui met en doute la parole de Dieu. Hein, et qui met même en doute l'existence de Dieu. Qui ne croit pas, c'est une personne incrédule. Son cœur est fermé. Fermé. On peut aller à l'église. Aller à l'église ne veut rien dire. Mais le problème le plus important, c'est la foi que nous avons en ce Dieu-là. Est-ce que nous croyons sa parole? Est-ce que nous croyons en ce Dieu? Beaucoup de personnes vont dans les églises le dimanche. Est-ce que toutes ces personnes croient? Croient. Mais je vous assure que si tous nous manifestions de la foi, des grandes choses se passeraient. Et Jésus dit race incrédule. Donc, c'est des personnes qui doutaient, qui mettaient en doute la parole de Dieu. Et une personne incrédule, c'est celui qui se pose la question de savoir est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a dit? Oh non, ça c'est pas vrai. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la fiction, ce sont des histoires. Mais moi je sais que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. C'est la parole de Dieu. Cette parole a été écrite pour nous, en exemple, et c'est vrai. Ce livre est vivant. Donc, je ne peux pas dire, est-ce que cela est vrai, cela existe? Quand je lis, on dit que Jésus a guéri, moi je crois qu'il avait guéri. Je ne discute pas. Je dis, Jésus a ressuscité un mort, je dis, moi je crois. Le jour de la Pentecôte, Pierre a parlé, 3000 âmes se sont converties. Moi je crois, cela est vrai. Donc, c'est ça la foi. Je lis, je crois. Et devant cette absence de foi, oui, ça c'est le premier niveau. Donc, si on mesurait la foi des disciples, ils n'avaient pas de foi. C'est le premier niveau. Donc, devant cette absence de foi, Jésus dit un jour à ses disciples, il dit ceci, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ah oui, si Jésus était là, poserait la même question. Est-ce que, lors de son avènement, trouvera-t-il réellement la foi sur la terre? Aujourd'hui, le monde vit comme si la foi n'existait pas. Les chrétiens vivent comme s'il n'y avait pas de foi. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? De plus en plus, les gens perdent la foi à cause du modernisme, à cause du raisonnement, à cause de développement économique, à cause de beaucoup de choses. L'homme croit que c'est lui qui peut apporter son... C'est lui-même qui est l'auteur de son salut. Il ne peut dépendre de personne. il ne peut plus se retourner vers Dieu. Il ne compte que sur lui-même. D'où toute cette théorie qui se développe sur l'humanisme. Donc, c'est l'homme est au centre de tout. C'est l'homme. Et Dieu n'existe pas. Donc, est-ce qu'il trouvera la foi? Et ces théories-là se développent où de plus en plus on nie l'existence de Dieu. Dieu est mis de côté. Est-ce que quand Jésus reviendra? Nous sommes en train d'attendre l'avènement du Seigneur. Les Écritures, les prophéties disent que le Seigneur reviendra bientôt. Mais est-ce qu'il trouvera la foi? Trouvera-t-il la foi? Et Jésus avait dit tout cela parce qu'il avait observé que les gens ne mettaient pas l'accent sur la prière. Quand il a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que les gens ne priaient pas. S'ils priaient et s'ils persévéraient dans la prière, je crois que quelque chose d'autre allait se produire dans leur vie. Alors, nous savons que la foi augmente à cause de la prière. La prière associée au jeûne. C'est en priant que nous avons la foi, c'est en priant que nous avons beaucoup de courage, que nous pouvons affronter toutes les situations. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et lors de sa première venue, il n'a pas toujours rencontré de foi. Et même dans sa propre ville, il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et en même temps, après sa résurrection, il apparut à ses disciples et leur reproche la dureté de leur cœur et aussi leur incrédulité. Donc, pendant tout le temps du ministère du Seigneur, il a accompli beaucoup de choses, mais les gens ne croyaient pas. Et dans sa propre vie, les gens n'ont pas cru. Alors donc, voilà ce premier niveau. Et ce niveau-là, on le rencontre dans nos églises, parmi les chrétiens. Le niveau manque de foi. Manque de foi. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, si vous permettez. Et nous allons découvrir un autre niveau de foi. Donc je comprends quand le Seigneur dit qu'il a donné une mesure de foi à chacun, en lisant les Écritures, cela paraît nettement. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27, c'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, qui reproche cela aux disciples. Donc, il remarque que certains de ses disciples avaient un peu de foi. Et là, il les interpelle comme les gens de peu de foi. Mais quel était l'obstacle? Au niveau zéro, le niveau de manque de foi, l'obstacle, c'était l'incrédulité. Mais ici, l'obstacle, ce sont les soucis et les inquiétudes. Il dit, vous vous inquiétez pour tout, pour tout. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, il rassure ces chrétiens, il dit, les inquiétudes sont un obstacle. Et quand nous nous inquiétons, nous faisons obstacle à notre foi. Et Jésus leur recommande de rechercher les choses célestes. C'est vrai, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Je cherche d'abord le royaume. Je suis dans le royaume. Il y a des choses qui, de fait, m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de les chercher. Et tant dans le royaume, il y a des choses qui m'appartiennent. Le travail m'appartient, la guérison m'appartient, la vie m'appartient, la joie m'appartient. Voyez-vous? Donc, étant dans le royaume, je n'ai pas besoin du Seigneur, guéris-moi, je suis dans le royaume. Donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Pendant que nous cherchons ce royaume, le Seigneur va s'occuper de nous. Mais si on s'inquiète de nos problèmes, de nos soucis, et nous allons détruire notre foi. Et Dieu ici s'engage à pourvoir aux réels besoins de notre vie et condamne l'attitude des soucis et des inquiétudes. Alors, dans Matthieu chapitre 8, si nous pouvons lire aussi, à partir du verset 3, nous voyons que Jésus nous montre un autre exemple d'inquiétude. Matthieu chapitre 8, verset 23, c'est un autre exemple. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Vous voyez donc, étant même avec le Seigneur, les disciples avaient peur. Mais il y avait des obstacles qui étaient là. Il y avait le vent, il y avait la tempête. Et nous savons que le vent, la tempête, ce sont les symboles des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Il y aura des difficultés, même si nous sommes chrétiens. Mais nous devons être sûrs, nous sommes sûrs que le Seigneur est là, que nous allons traverser cette tempête, que nous allons pouvoir affronter ce vent et que Dieu nous bénira par la suite. Donc ici, le Seigneur voit que ses disciples ont peu de foi, gens de peu de foi. Alors, nous voulons voir un troisième niveau, c'est dans Matthieu 8, Matthieu 8 chapitre 5, nous restons toujours dans Matthieu, chapitre 5, donc le premier niveau c'est l'absence de foi, le deuxième niveau ce sont les gens de peu de foi, et le troisième niveau c'est ce que nous allons voir maintenant, et dans tout cela chacun de nous va essayer de se retrouver, se reconnaître, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que tu es au niveau zéro? Est-ce que tu as peu de foi? Est-ce que tu es dans le niveau que nous allons parler tout à l'heure? Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 9, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il vient, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc ici, Jésus ne manque pas de souligner, de louer l'attitude de grande foi. C'était un centenier romain, il sympathisait simplement avec la religion juive. Mais il a manifesté une grande foi. Et au verset 13, il nous est dit, hein, si nous lisons la suite, au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc Dieu nous donne, nous exauce, nous bénit proportionnellement à notre foi. Si tu as une petite foi, l'exaucement aussi sera proportionnel à ta petite foi. Si tu as une grande foi, tu verras aussi des grandes choses s'accomplir dans ta vie, dans ton ministère. Parce que notre Dieu est grand. Et il aime toujours faire les choses à la mesure de sa grandeur. Et en parlant de foi, moi j'ai été dans ma vie influencé aussi par un évangéliste, un ami africain qui était de passage chez nous. Et au début du ministère, je l'avais invité pour qu'il vienne animer une réunion. Et là, nous étions à peine 200 personnes, 200. Et nous avons loué l'une des grandes salles chez nous qui pouvait contenir 1000 personnes. On a loué la grande salle, on n'était que 200. Donc on a distribué quelques prospectus et nous avions commencé à prier. Que Dieu touche les âmes dans toute la ville. Et quand l'évangéliste est arrivé, il a commencé à prêcher. À la fin de la réunion, la salle était archi-comble. Il y avait 1000 personnes. Et il se retourne vers moi pour dire, il dit, mon frère, moi je ne suis pas pour les petites choses. Moi je suis pour le stade. Il avait fallu louer le stade serait rempli. Alors, je vous assure, c'était des mots simples, mais qui ont fait tilt dans mon cœur. Voyez-vous, en parlant avec onction, cela a stimulé ma foi. J'ai dit, mais c'est vrai, nous sommes 200, mais nous louons une salle de 1000 personnes. Mais Dieu nous a bénis. Il y avait plus de 1000 personnes dans cette salle. Voyez, et lui, cet évangéliste, c'est vraiment un homme de foi. Il a dit, moi, j'ai prié pour ces réunions et le Seigneur va nous exaucer. Il dit, moi, je suis pour le stade. Et une semaine après, il m'a amené pour que nous puissions aller visiter le stade. Il dit, prochainement, si tu dois m'inviter, nous viendrons au stade. Et après son départ, j'ai dit, mais je dois manifester la foi. J'étais prédicateur, j'ai dit, mais je dois manifester la foi. 200, et chaque dimanche, je rajoutais 5 à 10 chaises. Chaque dimanche. Et quand on remettait 5 nouvelles chaises, elles étaient occupées. Chaque dimanche, 10 chaises, elles étaient occupées. Et ainsi de suite, voyez-vous, on faisait le pas de la foi. Nous prions, on faisait le pas de la foi et le Seigneur nous accompagnait et nous exauçait. Vous savez, dans toute chose, nous avons besoin de faire le pas de la foi. Vous savez, c'est comme un enfant qui fait ses premiers pas, qui marche. Un enfant qui apprend à marcher, qui se lève. Qu'est-ce que le père fait? Quelquefois, on tend la main vers l'enfant, on l'encourage, on dit « Viens, viens !» L'enfant se lève, il titube un peu, dit « Avance !» Ouais. Pour marcher, l'enfant doit faire le premier pas. Quand il fait le premier pas, alors là, vous allez voir, il commence à faire le deuxième et ensuite marcher. Nous avons besoin de faire le premier pas. Et ensuite, le Saint-Esprit va nous accompagner. Faisons le pas de la foi en toute chose. En toute chose, faisons le pas. Et Dieu va nous aider. Il nous abandonnera jamais. Et quand l'enfant fait ce deuxième pas, commence à marcher, alors là, le père est heureux, il encourage. Vas-y, même si l'enfant trébuche, il va se lever, on l'encourage, on dit, oui, c'est bien. Hein, voyez-vous? Et l'enfant continue à marcher. Nous avons besoin de vivre cela. Nous avons besoin de vivre des grandes choses. Nous avons besoin que notre foi soit grande. Et devant donc ces reproches, ces inquiétudes, cette incrédulité, ces difficultés, alors les disciples ont dit un jour à Jésus, augmente-nous la foi. Voyez-vous? Ils ont vu que le Seigneur leur reprochait l'absence de foi. Ils ont entendu le Seigneur reprocher à certains, et comme étant des gens de peu de foi, et il a loué la foi de ce centenier, et l'autre jour, ils ont dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Nous allons le lire dans Luc chapitre 17. Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, et c'est notre prière ce soir, Seigneur, augmente-nous la foi. Même si ta foi est grande, prie encore pour avoir une plus grande foi. Luc chapitre 17, verset 5. À quoi sert de prier si nous ne croyons pas? À quoi sert? Luc chapitre 17, verset 5. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, c'était légitime ce qu'ils ont demandé. Seigneur, augmente-nous la foi. Et je crois que ce soir, humblement, on peut dire au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. J'ai envie de croire, mettre ma confiance en toi. Voyez-vous? Et que si nous avons la foi, tout ce que nous allons demander au Seigneur, cela va s'accomplir. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, la Bible dit que la chose leur sera accordée. Si deux personnes s'accordent, sont en accord dans l'unité, dans la foi, demandent quelque chose, la chose leur sera accordée. Et en lisant cela, moi je crois et je mets cela en pratique. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin que dans l'Église, nous soyons des hommes de foi. Ah ouais, devant la situation, personne ne recule. Dit, nous avançons. Quelles que soient les situations, nous aurons la victoire. Nous allons avancer, nous sommes vainqueurs. Devant toutes les situations, personne ne recule. C'est ça l'attitude de foi. Quels que soient les temps, les circonstances, les situations, les événements, nous disons, nous avançons. Seigneur, tu es avec nous. Ce sont des attitudes de foi. Augmente-nous la foi. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, c'est comme une graine de moutarde. Vous savez, la graine de moutarde, pour la voir à l'œil nu, ce n'est pas facile. Hein, il faut peut-être pour certains qui ont la vue qui baisse comme moi, il faut le microscope pour regarder la petite graine de moutarde. Il dit, mais si vous aviez une foi comme la petite graine, mais donc les disciples n'avaient même pas la toute petite graine de moutarde. Si vous aviez cette foi-là, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Donc les montagnes, ce sont les difficultés, tous les problèmes que nous avons, ôte-toi de là. Donc dans nos prières, on pourrait dire, Seigneur, fais cela. Il y aurait exaucement. Si on avait cette foi-là, oh Seigneur, bénis ce frère. Oh, qu'un tel sorte de soit libéré des chaînes qui le lient. Seigneur, que cette personne soit convertie. Voyez-vous, si nous avions cette foi-là, les montagnes allaient se déplacer. Alors, et nous croyons qu'il y a des remèdes à l'incrédulité, il y a des remèdes au manque de foi, il y a des remèdes à l'incrédulité. Si Dieu remarque que nous sommes incrédules, il y a un remède à cela. Et à Pierre, qui s'enfonce dans l'eau, voyez-vous, les disciples étaient avec le Seigneur. Pendant qu'il était en train de renvoyer la foule, les disciples ont pris une barque. ils étaient au large et Jésus commençait à marcher sur l'eau, sur la mer. Et Pierre aussi a vu le Seigneur qui venait, il dit, il venait vers le Seigneur. Mais il n'a pas pu, il a commencé à s'enfoncer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a tendu la main en disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ouais, donc, dans le doute, le Seigneur nous tend la main toujours. Il ne nous abandonne pas. Même quand nous doutons, il nous tend la main. Il a tendu la main à Pierre, dit, « Homme de peu de foi, allez, viens ici. » Ouais, devant nos inquiétudes, il ne regarde pas cela. Il nous tend, il y a toujours une solution pour nous sortir de là, que notre foi puisse fonctionner. Et à Thomas, quand Jésus est apparu, les autres apôtres ont dit, oui, Jésus est ressuscité. Lui, il a dit, tant que je ne verrai pas les marques des clous, je ne croirai pas. Alors maintenant, le Seigneur est apparu et a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ouais, donc, le remède est toujours là. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ouais, il encourage Thomas à croire. Et Jésus aime entendre dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il aime entendre son peuple dire cela. Et ce soir, nous pouvons le dire au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, moi qui ne crois pas. Viens me soutenir, viens m'aider. Donc, il y a un remède à cela. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il nous soutient dans notre incrédulité. Il nous soutient dans nos inquiétudes, dans nos soucis, dans nos difficultés. Vous savez, les soucis nous éloignent de Dieu. On n'a pas envie de croire, on dit non, c'en est trop. Mais Dieu ne fait rien pour moi. Mais devant ces soucis, Dieu nous aide toujours. Alors, il y a aussi des bonnes attitudes de foi. Et dans la Bible, moi j'aime l'attitude de cette femme qui s'est approchée de Jésus par derrière, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a dit, si seulement, voyez-vous, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Ça, c'est une bonne attitude, si seulement. Sans que le Seigneur prie pour elle, sans que le Seigneur lui adresse la parole, par derrière, pas par devant, mais par derrière. Il y avait la foule, elle a tout fait pour aller tenir le bord du vêtement de Jésus. Et à l'instant même, elle était guérie. Donc, c'est une bonne attitude de foi. Et le Seigneur lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. » Donc, devant les bonnes attitudes de foi, il y a quelque chose qui se passe toujours. Le Seigneur nous accompagne. Ce que nous voulons, c'est que la foi puisse vraiment germer de nos cœurs, que cette foi se manifeste, qu'on voit les fruits de notre foi. Dieu nous a plantés dans cette église, dans cette ville. Il nous a amenés dans son royaume. C'est pour que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. Que ces fruits soient visibles. Mais si nous ne manifestons pas la foi, nous ne produirons aucun fruit. Mais le Seigneur veut nous aider. Et cette exhortation ce soir, c'est pour nous aider à croire. À croire. Nous avons commencé à nous organiser dans l'intercession, à redoubler l'effort dans l'intercession qui est déjà là. Vraiment, nous redoublons l'effort avec tout le monde ici. Nous voulons redoubler l'effort, c'est notre désir. Parce que la prière, l'intercession, c'est la clé de toute chose. Quand nous prions, notre foi augmente, nous croyons. Et ceux qui prient, ce sont des vainqueurs. Une personne qui prie, c'est une personne victorieuse dans tous les domaines. Son langage est différent, sa vie est différente. Hein? Il ne recule pas devant les situations. Là où les autres disent qu'on ne réussira pas, mais lui, l'homme de prière, il réussira. Là où les autres reculent, il ne reculera jamais. Là où les autres sont fatigués, lui va dire, moi, prends courage, allons-y. C'est ça les hommes de prière, les hommes de foi. Et Dieu honore la foi de ses enfants. Dieu honore notre foi. Prions qu'il honore notre foi. Nous voulons voir cela. La manifestation de notre foi. Vous voyez, moi je suis en train de louer le Seigneur. Vous êtes dans ce local, parti de Waterloo pour ici. C'est la manifestation de la foi. Ah oui, c'est par la foi que vous avez eu ce local-là. Parce que vous avez cru, vous dites, oh, nous allons prendre ce local. Et je crois que ce n'est pas fini. Dieu a encore des grandes choses à faire avec ce peuple. Mais nous devons aller par la foi. Vous savez, il y a des choses, humainement on peut dire non, on ne peut pas. Parce que tellement nous raisonnons. Ah non, mais oui, mais si on prend un crédit, comment est-ce qu'on va faire? Le remboursement, on commence à faire des calculs. Mais si cela vient du Seigneur, dit Seigneur, nous nous soumettons à toi simplement. Et nous obéissons. Nous allons. Moi, j'aime autour de moi des personnes qui ont des attitudes, des bonnes attitudes de foi, qui manifeste la foi. Je n'ai pas entendu les paroles négatives et ça me décourage, ça me pollue, ça nous pollue. Ah non, on ne peut pas, la situation est difficile, ce sont des temps de crise. Oh là là, mais que pense Dieu? Que pense Dieu? Donc nous avons besoin de vivre la foi. Vous savez, et c'est des choses qui sont spirituelles, hein, qu'on ne peut pas toujours comprendre. Et nous avons besoin de ne pas trop raisonner. Soyons comme des enfants. La foi, c'est ça, comme un petit enfant. Comme un enfant, il croit à tout. Le père lui dit, moi je t'amène des gâteaux à 12 heures. L'enfant croit. Il va à l'école, en revenant de l'école, il dit, mon papa va m'amener un jouet ou un gâteau. Il croit simplement. Écoute, je te promets ceci, on ira en vacances dans telle ville. L'enfant croit, il croit. Et tout le temps, il va demander à son papa, mais les vacances, mais papa, mon jouet, papa, mon... Il va le demander à son père. Voyez-vous, il croit. Mais nous devons être comme des petits-enfants, croire. Que ce Dieu-là, on n'a pas vu la chose, mais nous croyons que notre Père Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire. Ah oui, ah oui, tout ce que nous lui demandons. Il dit que deux personnes qui s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. Pourquoi ne voyons-nous plus des exaucements de prière? Pourquoi? On est fatigué, on dit, mais Seigneur, pourquoi cela? On est comme dans une routine, c'est le même, Seigneur. Mais nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous voulons aller de l'avant. Nous devons nous remettre en cause ta propre vie de prière, ta propre vie de foi. Où est-ce que j'en suis avec ma foi? Où est-ce que j'en suis avec ma vie de prière? Où se trouve mon niveau de foi? Et ce soir, tu peux déterminer ton niveau de foi. Est-ce que tu es parmi les gens qui n'ont pas de foi? Est-ce que tu es parmi les gens qui ont peu de foi? Ceux qui ont une grande foi? Ça, c'est toi qui le sais. Mais moi, je prie, comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Quel que soit le niveau, augmente, Seigneur. C'est ma prière, augmente, Seigneur. Et je crois, nous allons nous incliner dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il fasse de cette église une église de foi, des hommes et des femmes qui s'attendent à lui. Ah ouais, pour toutes les situations. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit...